prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, croyant que.
Bonsoir à chacun. Je vous propose que nous entreprenions notre méditation ce soir sur un texte dans l'évangile de Luc, mais auparavant j'aimerais que nous lisions tout simplement un verset dans le livre du prophète Ésaïe, un verset de circonstance. Donc, livre du prophète Ésaïe, au chapitre 7, le verset 14, que nous retrouvons d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais lisons ce passage, parce que c'est une prophétie, c'est une prédiction. Voilà, Ésaïe 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. » Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous allons retenir bien ce nom-là, Emmanuel. Et puis nous allons tourner les pages de notre livre dans l'évangile de Luc maintenant, et c'est ce qui nous permettra tout simplement de prolonger et d'argumenter cette pensée. Alors, Luc, chapitre 2, verset 39. « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Il va s'écouler 12 ans entre le verset 40 et 41. Et je reprends. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Voilà, que Dieu nous aide à saisir le sens de ces paroles. Elles nous sont rapportées que dans l'évangile de Luc. Alors on va essayer d'y trouver ce qui est nécessaire pour encourager notre foi. Et le récit met en évidence l'illusion de la croyance. Je n'ai pas parlé de l'illusion de la foi, parce que la foi n'est pas une illusion, mais l'illusion des croyances que l'on peut avoir, de ce que l'on croit, connaît ou savoir, et qui n'est pas en réalité. Si je reprends tout simplement, eh bien, au début de notre lecture, il nous est dit que dans ce texte, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. C'était une tradition et une habitude. Ils croyaient à cette tradition et ils avaient cette habitude de tradition, tout simplement. Parce que Pâques en Israël, c'est quelque chose. Pâques en Israël, c'était quelque chose du temps de Jésus. Les familles partaient toutes ensemble. Il y avait énormément de monde sur les routes pour descendre dans la ville du grand Dieu. Et on faisait le chemin en chantant les psaumes. Alors c'était quelque chose d'assez particulier, très touchant. Il y avait une grande sensibilité parce que c'était vraiment la grande fête pour les Juifs. Et nous voyons que ça se passait au moment où la nature était à son renouveau, c'était la saison du printemps. Alors pour un enfant, comme l'était Jésus, c'était quelque chose de formidable. C'était la liberté en quelque sorte. C'était une découverte de la grande ville, de la capitale. Et nous voyons que pour Jésus, lui qui était aussi au printemps de sa vie, eh bien, comme on le dit très souvent, pour un juif, monter à Jérusalem, et c'est vrai que ça monte, eh bien, c'était une véritable expédition. On pourrait dire que c'était un ravissement. Et vous avez remarqué avec moi, il avait 12 ans. C'est là où un jeune garçon juif, devenait fils de la loi. Il y a un nom tout à fait particulier pour désigner ça. Et nous voyons que, il devenait en quelque sorte, il rentrait dans sa maturité, en quelque sorte, sur le plan de la religion. Et nous voyons que Jésus tout l'intéresse, comme on va le deviner, parce que il va se retrouver dans une aventure tout à fait significative. Et non seulement ça l'intéresse, mais tout l'intrigue. Et nous voyons que Jésus va chercher, peut-être plus que les autres années, va chercher à découvrir le sens des cérémonies religieuses. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans le temple, au pied des docteurs de la loi, de ses érudits, de ses enseignants de la loi et des prophètes. Et nous comprenons dès lors que il commence à monter au fond de son âme, de son cœur, la conscience d'être, non seulement un juif, mais qu'il y a certainement une autre destinée pour lui. Et à ce titre, en voulant percer la compréhension, en voulant cette perspicacité qu'il a, cet intéressement qu'il a des cérémonies de son peuple, des cérémonies religieuses juives, il sait peut-être où il commence à pressentir qu'un jour, ce sera lui qui les accomplira dans la perfection. Parce que jusqu'ici, rien n'a été parfait. Même dans la loi, dans les cérémonies, dans les rites, dans les traditions, rien n'a été parfait, puisqu'il fallait recommencer continuellement. Mais peut-être déjà, il perçoit quelque chose, c'est indéfini, et à travers cet accomplissement de ces cérémonies, de ces traditions, c'est lui qui ouvrira le chemin du salut, non pas pour les Juifs, et pour le monde entier. Alors, il nous est dit que chaque année, dans cette tradition, selon la coutume de la fête, parce qu'il y avait quelque chose de très fort, aujourd'hui ça ne se fait plus, il n'y a plus de conscience peut-être religieuse et encore moins spirituelle dans notre monde, nous sommes dans un monde extrêmement laïque, et ça ne veut pas dire grand-chose. Mais peut-être qu'à un autre temps dans notre société, notre civilisation, les choses étaient beaucoup plus marquées que cela. Aujourd'hui, si vous dites aux gens qu'est-ce que signifie Noël et Pâques, ils vous diront c'est un week-end, un grand week-end, des vacances. C'est tout ce qu'on leur retient. C'est pour dire que le niveau, quand même, s'est quelque peu effondré. Mais toujours est-il qu'il y avait un besoin de se conformer à quelque chose. Et si nous reprenons la suite, il nous est dit que « Puis quand les jours furent écoulés, parce que ça durait 8 jours cette fête, il y en a qui partaient pour 3 jours, parce que c'était les jours pleins de la fête de Pâques, mais les gens pouvaient rester en effet un peu plus longtemps, donc 8 jours. Alors, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. » Alors, on est quand même étonné de ce qui est écrit, parce qu'il y avait dans cette tradition un aller et un retour. et ça se faisait comme ça. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de monde. On y allait en famille, et les familles étaient très nombreuses, naturellement. Et en quelque sorte, dans cette conformité à l'habitude, à la tradition, alors on venait, on revenait, et cette routine, quelquefois, pouvait priver, peut-être peu priver, eh bien, de la réflexion. On le fait parce qu'on le fait par habitude. On le fait parce que c'est la routine, tout simplement. Et ça peut être la cause d'imprudence, ou peut-être même de négligence. Parce qu'il y avait une euphorie. Hein. Les fêtes religieuses, c'est certainement différent de notre contexte, quelque part morne, hein, de notre société, de notre monde occidental. Mais c'était certainement quelque chose de très joyeux, où il y avait une grande allégresse, hein, où là, eh bien, on partageait des repas, on se retrouvait avec d'autres personnes, et c'était quelque chose de très fort, hein, et tout cela au nom de Dieu. Mais on s'aperçoit que on va se trouver devant une situation où Joseph et Marie vont oublier Jésus. C'est quand même assez étonnant parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui on oubliera un enfant quelque part, non ? Quoique on a entendu ces derniers temps des enfants qui sont oubliés dans les voitures, avec des conditions soit de froid ou de chaud, et qui déclenchent souvent le scandale et l'incompréhension des gens. Alors, voilà, on a parlé d'imprudence, on a parlé de négligence, et il nous est dit que Jésus est resté à Jérusalem. Et ses parents ne se sont aperçus de rien. Et ça, c'est étonnant. Un enfant égaré, un enfant oublié. Ça nous interpelle, mais c'est quand même inquiétant. Alors on va voir que finalement, dans ces circonstances qui nous sont rapportées, tout est inscrit dans un plan. C'est pas au hasard. On aurait pu s'attendre à ce que cet enfant qui s'appelle Jésus soit véritablement un garçon très 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 sage. Alors ça n'empêche pas qu'il était sage. Mais pourquoi est-il resté à Jérusalem? Pourquoi, eh bien là, quand il a vu, et probablement, ne s'en est-il pas aperçu, de voir ses parents partir? Mais en principe, pour des parents qui sont dignes de ce nom, eh bien, on essaie de rattembler un petit peu tout le monde avant de se remettre en route. Alors, il y a un verset clé dans notre méditation, c'est le verset 44, parce que je voudrais attirer votre attention sur ce qui est écrit, sur ce qui est dit. Donc, les parents ne s'aperçoivent de rien, Jésus va rester à Jérusalem, et la suite nous dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et après ce temps, ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Je prends le début de cette phrase. Croyant que, tout à l'heure je vous ai dit, l'illusion des croyances, et j'y reviens. Parce que pour eux, ça ne faisait aucun doute que Jésus était reparti ou repartait avec toute la famille et reprenait la route de Nazareth. Croyant qu'ils s'étaient persuadés qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Je pense qu'il devait y avoir là toute une ribambelle d'enfants, des petits garçons, des petites filles qui couraient dans tous les sens. Hein. C'est un tempérament hein, en Moyen-Orient. Mais toujours est-il que les parents étaient persuadés, peut-être qu'ils se sont posé la question l'un à l'autre, en disant, mais est-ce que tu as vu Jésus? Non, je ne l'ai pas vu, mais on ne s'inquiète pas. Il doit être là, il doit être auprès des uns et des autres, et puis, ce n'est pas un problème. Alors, c'est surtout ce mot que nous laisse, cette expression que nous laisse l'évangéliste, Luc, hein, croyant que. Pour nous montrer et parfois nous interpeller, et c'est le but aussi de notre réflexion ce soir, combien suivent, insouciants, leur chemin dans l'illusion de telle ou telle chose. Dans des choses indifférentes de la vie, mais parfois aussi dans des choses qui appartiennent peut-être à une pensée religieuse, ou une pensée spirituelle, ou une pensée d'importance. Quelque chose qui... eh bien, mérite d'être pris en considération et gravement en considération. Et c'est vrai que on est un peu peut-être parfois comme ça, insouciant. Et on tient pour des choses que l'on n'a pas vérifiées, des choses que l'on a, sur lesquelles on n'a pas réfléchi, que l'on n'a pas étudié, sur lesquelles on n'a pas porté peut-être une attention particulière, en pensant que c'est comme ça. Ses parents pensaient que c'était comme ça que Jésus était probablement dans le cortège qui remontait sur la Galilée, croyant. Vous savez, on utilise quelquefois l'expression « je crois ». Je crois comme ça, mais finalement, on le croit, mais d'une manière tellement superficielle, tellement passagère, si peu. Et ils étaient persuadés. On pourrait dire qu'ils étaient persuadés. Ils ne vont pas s'inquiéter. Persuadés d'être ou d'avoir, et sans s'apercevoir, sans se rendre compte que finalement, l'enfant, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas avec eux. Une forme d'égarement. Trompés, voire abusés par leur impression. Ils avaient l'impression qu'il était dans le groupe. Alors, c'est grave parce que il me semble que ça pose une question, une grave question aussi. Que quand ce qui concerne, et là il s'agit de Jésus, il s'agit de l'Évangile, quand ce qui concerne les réalités de notre vie présente et les réalités de notre vie à venir, je pense que beaucoup de gens disent ou confessent « je crois, je suis croyant, je crois ceci ou je crois cela », mais sans autre, sans aller plus loin. Parce qu'ils ont l'impression, parce qu'on leur a dit, parce qu'ils ont été éduqués, parce qu'ils ont une culture, parce qu'ils ont des traditions, parce qu'ils ont des habitudes, on y revient toujours. Il y a une routine qui nous amène tout simplement à considérer les choses de cette manière, sous cet angle. Et puis on se dit, bien, finalement, je ne suis pas tout seul à croire cela, donc s'il y en a des dizaines, des centaines et des milliers, c'est que je suis dans la vérité. Les pauvres parents, en l'occurrence Joseph et Marie, ben, ils étaient persuadés, mais ils se trompaient. Tout simplement parce que Jésus n'était pas là. Je voudrais donner quelques exemples d'illusions d'être. Oui. Il y a dans le livre de l'Apocalypse cette parole qui est adressée à une église. Il est dit ceci, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Vous connaissez ce texte, hein, vous le retrouverez. Chapitre 3, me semble-t-il, de l'Apocalypse. Et je crois que ça, c'est une interpellation brutale que l'Esprit de Dieu donne, envoie aux hommes. Oui, tu passes pour être. Tu passes pour être vivant. Tu as les apparences de la vie, mais moi qui te connais, à l'intérieur de toi-même, ton âme, ton esprit, tout cela, eh bien, il n'y a rien. Une illusion d'être. Nous avons un texte, par exemple, dans l'évangile de Luc, c'est le même évangile que nous avons ouvert il y a un instant, au chapitre 18, sur peut-être la nature même de notre croyance. Et vous savez qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement croyants du temps de Jésus. On les appelait les pharisiens. Et écoutez ce qui nous est dit dans une simple petite phrase. Il nous est dit ceci, c'est que Jésus a donné cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Alors vous savez, après c'est la parabole du pharisien et c'est la parabole du publicain qui rentre dans le temple. Hein, l'un va se mettre en avant sa position, sa suffisance, parce qu'il est pharisien, parce qu'il a la foi en Dieu, et il va faire l'étalage de toutes ses prérogatives, enfin illusions. Et puis il y a l'autre qui va se frapper la poitrine en disant « Mais moi, je ne suis rien du tout, je suis un misérable. » Lui, il ne se faisait pas d'illusions en tous les cas. Il ne croyait pas être un véritable juif. Il disait « Moi, je suis un misérable et un malheureux. J'ai ruiné ma vie, finalement, à faire des choses n'importe comment et n'importe quoi, mais je rentre quand même parce que j'ai besoin de Dieu. » Voilà. Lui, il ne se faisait pas d'illusions. Il était dans la réalité, tandis que l'autre disait « Mais moi, je peux m'approcher. Le Seigneur ne peut pas se passer de moi, parce que c'est normal, je suis quelqu'un... au-dessus des autres. Donc ça, c'est l'illusion d'être. Une illusion d'exaucement. Il y a des gens qui sont aussi dans l'illusion. Ils croient que en faisant ceci, en faisant cela, et vous connaissez naturellement, à juste titre, le sermon sur la montagne, il nous en est parlé, et dans le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui enseigne cela par rapport à la prière. Qu'est-ce que nous entendons par la prière? Qu'est-ce que nous pensons de la prière? De quelle manière pouvons-nous exprimer nos prières? Écoutez bien, Jésus le dira en ces termes. Il dira ceci, lorsque vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites. J'ajouterai, qui croit et qui aime à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vu des hommes. Voilà, c'est ça. On a véritablement encore un cas de figure. Alors, Jésus répondra, je vous le dis, ils ont leur récompense. En vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parce que là, ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Mais souviens-toi, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, et surtout, ne leur ressemblez pas. Donc, nous voyons qu'il y a bien des gens qui s'imaginent et qui vont passer toute leur vie durant dans un devoir qu'ils se feront au fond de leur conscience de prier comme on leur a appris, alors que ça n'a aucune signification, aucun sens, parce que Dieu n'entend pas ce genre de prière. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne t'imagine pas, parce que tu vas prier debout dans les rues, que là, eh bien, tu seras exaucé davantage. Ça, c'était la manière des Juifs, hein, pour être vu, pour être eh bien, reconnu comme des personnages ou des personnalités spirituelles, pour avoir naturellement eh bien, le retour de compliment. Illusion d'exaucement de la prière. Illusion de salut. Dans un psaume, les choses sont très clairement exposées. Dans le psaume 49 et au verset 7, il est dit cette parole, donc 49, verset 7, que je retrouve le texte. J'ai dû me tromper, non, le psaume, excusez-moi, j'ai pris Ésaïe, c'est une petite erreur de ma part. Voilà, on va retrouver ce passage. Bien. Il est dit ceci, en parlant de l'illusion de ceux qui s'imaginent être dans une position de piété et reçu de Dieu, il est dit ceci, ils ont confiance dans leur bien, ils se glorifient de leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu, ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, donc de la mort. Car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Et ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, etc. Sa vie n'est qu'une folie, nous dit la fin du texte. Donc, illusion de salut. Ça, c'est encore quelque chose à marquer. Vous savez qu'on peut être sincère dans l'erreur. Ouais. On peut être d'une grande sincérité dans ce contexte. Et je pense, ma pensée va sur Paul, l'apôtre Paul, qui lui était un homme extrêmement sincère. C'était un juif. Il faisait partie de l'élite d'Israël dans la connaissance, dans la foi en Dieu. Mais c'était un fanatique et un persécuteur. Il était aussi dans l'illusion. Il croyait que, quand il est allé sur le chemin de Damas et qu'il allait pour persécuter les chrétiens de Syrie, il croyait qu'il faisait bien. Il croyait qu'il avait raison de faire cela, de s'opposer à cette nouvelle religion que l'on appelle aujourd'hui le christianisme, de s'opposer à Jésus-Christ. Et nous voyons que lorsqu'il tombera de son cheval, sous l'effet de la lumière intense, qui sera sa conversion, il dira « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Donc quelqu'un qui avait toujours tenu ferme en disant « Moi, je connais Dieu » et quand Dieu lui apparaît, il lui dit « Mais qui es-tu » Donc il fait preuve, finalement, que de l'illusion de sa croyance. Et il écrira beaucoup plus tard dans sa vie, certainement à la fin de son existence, il écrira ces mots, pour nous renseigner encore, sur l'illusion de la croyance. Au chapitre 1er, au verset 13, il dira ceci: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, il était sincère hein, dans ses blasphèmes. Il était sincère en tant que persécuteur. Il était sincère parce qu'il dira, j'étais violent, mais cette violence, je la portais au service de Dieu. Alors c'est quelque chose d'antinomique, puisque quand on est au service de Dieu, on n'est pas violent, c'est le contraire. On doit apporter la paix. Mais il dira ceci, il ajoutera, après, naturellement, son expérience, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Ouais. J'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de Dieu a surabondé dans ma vie. Parce qu'il arrive à un moment ou à un autre où on ouvre les yeux et on s'aperçoit qu'il y a la foi spirituelle, la foi qui est donnée au contact de la parole de Dieu, qui naît dans notre cœur, qui est une conviction, qui est une force morale à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a aussi tout le reste des croyances qui viennent souvent nous embarrasser et nous donner d'avoir une position en croyant que Jésus est avec nous, comme les parents de Jésus pensaient qu'il était avec eux, mais il n'était pas avec eux. Quelle découverte! Quelle surprise! Comme quoi on peut avoir des yeux et ne rien voir. Ça, c'était le cas de Paul, tout simplement. Et pour revenir aux parents, à Joseph et Marie, ils croyaient que sans s'apercevoir de l'absence de Jésus. Et ça, ça nous revient pour chacun d'entre nous. Où en sommes-nous? Parce que nous pouvons avoir le nom de Dieu dans notre bouche, nous pouvons connaître quelques bribes de l'histoire de l'Évangile, mais est-ce que réellement Jésus est avec nous? Jésus interpellera un jour un docteur de la loi qui va lui réciter en quelque sorte les commandements pour faire la volonté de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, mais il te manque une chose. C'est que tu connais tout cela, mais tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Voilà. Il croyait que, avec cela, eh bien, il avait tout, mais il fallait qu'il fasse aussi la démarche. Alors, on s'aperçoit que les parents de Jésus ont marché longtemps sans savoir et ils ont cherché longtemps sans trouver. Et je pense que nous sommes aussi confrontés dans notre monde, dans notre société, avec des gens sincères qui croient que, qui sont dans l'illusion de certaines croyances, de fait, et qui marchent très longtemps et qui cherchent très longtemps sans trouver. Pourtant, il y a quand même quelques échos dans la Bible où Dieu dira à Israël, et ça, ça nous revient, « Si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, vous savez ce que Dieu répond ?» Je me laisserai trouver par toi. » Eh oui, je me laisserai trouver par toi. Marcher longtemps sans savoir, être tenu dans l'incrédulité, comme dit Paul, être tenu dans l'ignorance, et puis chercher sans trouver, c'est quand même quelque chose. Au verset 44, et je poursuis, « Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent donc une journée de chemin, et ils cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. » Un retour parfois s'impose dans la vie des hommes. Ouais. Vous savez, je pense que le terme même de conversion est approprié à ce que nous disons ce soir. Pour la plupart d'entre nous, nous avons été élevés dans une tradition, dans un contexte religieux, plus ou moins marqué, quelquefois plus marqué pour certains que pour d'autres. Et le jour où nous avons été véritablement, où nous avons entendu l'appel de Jésus, nous avons été mis en contact avec la parole, comme nous le sommes ce soir, ou comme nous pouvons le faire lorsque nous lisons la Bible, eh bien à un moment donné, il s'impose quelque chose. Il y a un retour. Il faut réfléchir et faire le bilan. Et un retour parfois s'impose. Ils étaient déjà, ils avaient marché pendant une journée. Ça représente une journée de marche hein, pour à l'époque, peut-être 30 km. Et de devoir dire, mais on ne l'a pas trouvé, il n'est pas là, il n'est pas avec nous sur la route du retour. Alors les parents, à ce moment-là, ont véritablement été affolés. Cet affolement va eh bien, les amener tout simplement à revenir sur Jérusalem, à repartir à Jérusalem. Et je crois que cette image de Joseph et de Marie qui vont faire demi-tour, c'est un peu l'image de lorsqu'un homme fait le point, il fait le bilan. Et il vérifie la validité de ce qu'il pensait croire, de ce qu'il imaginait croire, de ce qu'il pensait savoir. Il pensait savoir que leur fils était là, mais il n'était pas là. Et dans la vie, et face à l'Évangile, face à l'appel de Dieu, bien Dieu nous interpelle pour nous dire, mais où tu en es rendu? Où tu en es rendu? Le verset 46 poursuit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus était venu pour s'instruire. Bientôt, enfin, 18 ans plus tard, c'est lui qui instruira le monde. Mais là, pour l'instant, il se soumet à l'instruction des hommes. Ça passe par là. Et pourtant, on pourrait dire c'est Jésus. Mais oui, mais c'est Jésus. Il apprend des hommes. Il sera, d'ici quelque temps, certainement dans une autre relation avec son Père céleste, dans cette connaissance. Et on imagine l'angoisse 3 jours. 3 jours, l'angoisse de ses parents, et on va s'apercevoir qu'ils l'ont cherché, mais ça ne va pas être vain, mais ils ne vont pas le trouver dans n'importe quel endroit. Il nous est dit qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis, écoutant, interrogeant. Alors il y a là une curieuse et énigmatique attitude pour un enfant qui veut savoir. J'ai toujours remarqué, je voudrais faire quand même une parenthèse, dans la Bible il est dit « Instruis l'enfant dans sa jeunesse et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Ça c'est très pédagogique. Parce que ce que nous avons reçu dans notre enfance, dans notre petite enfance, là où on nous a parlé de Dieu, quel que soit de quel horizon nous sommes. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous parlez de Dieu à un enfant, le cœur de l'enfant sera ouvert. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Il n'a pas été marqué, son cœur, sa conscience, son esprit, n'a pas été marqué, n'a pas été souillé, n'a pas été touché par ce qui arrive à tout homme en grandissant ou en vieillissant. Et je pense qu'il y a toujours un intérêt, on le voit avec nos enfants des clubs, on voit chez nos enfants lorsqu'ils sont en colonie de vacances, lorsque nous avons ces réunions spirituelles avec eux, lorsque on les voit prier, lorsqu'on les voit ensemble, il y a quelque chose de très beau. Et le cœur de l'enfant, ça pénètre à l'intérieur. Et je crois que Jésus, qui est vraiment l'enfant de tous les enfants, enfin en quelque sorte, eh bien, il veut apprendre, il veut savoir. Et je pense que derrière, nous y devinons, si les parents ne comprennent pas le pourquoi, la Bible nous enseigne et elle nous montre que c'est une préparation à un avenir d'exception. Parce que tous ceux qui l'entendaient, il nous est dit au verset suivant, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Un avenir d'exception, Jésus. On voit déjà quelle sera la voie de l'enfant quand il est petit, si elle sera droite ou non. Ça se voit déjà. Et nous voyons que nous avons constaté que Jésus répondait aux questions. Et il faisait déjà la démonstration d'une intelligence, de quelque chose qui était tout autre pour son âge. Ses parents qui sont dans l'angoisse, hein, qui sont étreints de peur, eh bien, ont la réaction de la réprimande. Et comment ne l'aurait-il pas eu ? Ça fait 3 jours que vous cherchez votre enfant, il y aura longtemps qu'on aurait déclenché le... Comment on appelle ça ? Pardon ?
Le plan,
oui, c'est ça, un plan de recherche. Ça serait passé à la télévision, à la radio, etc., etc. Mobilisation de dizaines et de centaines de gendarmes. Oui, on n'en était pas là à l'époque. Hein. Mais réaction de réprimande, tout à fait logique pour des parents. Comment ? Pourquoi ? Où étais-tu ? Que faisais-tu ? Avec qui es-tu parti ? Ou avec qui es-tu resté, surtout ? C'était surtout ça. C'est le classique parental. Hein. Et je pense que ce sont des parents normaux. Quoi qu'il en soit, mais ils ne comprennent pas. Ce que l'on remarquera, par contre, c'est la prise de conscience brutale et subite de Marie. Parce qu'elle va passer 3 jours sans trop d'inquiétude, enfin, surtout le premier jour, sans inquiétude aucune. Et elle ne s'inquiète pas parce qu'elle ne sait pas. Elle croit qu'il est là, alors qu'il n'est pas là. Vous savez, quelquefois, la connaissance nous rend vraiment malheureux. Ça nous tourmente. On peut vivre des choses, quand on ne les connaît pas, eh bien, on ne s'inquiète pas. Et à partir du moment où on les connaît, alors maintenant, il faut vérifier la validité de ce que nous connaissons. Parce qu'il y a des exploitations de la peur, de l'angoisse et de toutes sortes de choses semblables. Alors, là, il faut faire attention, parce qu'on est sur un terrain qui est très difficile. Mais elle ne s'est pas inquiétée pendant tout ce temps-là, parce qu'elle ne savait pas. Et maintenant, elle est aux abois, Marie. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agit de la sorte avec nous. Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et une réponse non moins mystérieuse à travers ce que Jésus va répondre. Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ?» Ça, c'est quand même étonnant. C'est quand même stupéfiant, une réponse pareille. « Pourquoi me cherchiez-vous ?» Et en interrogeant cette fois-ci, « Mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Alors là, c'est vraiment déroutant, parce que qui est le père de Jésus ? Joseph pourrait dire, dis donc, là, il ne faut peut-être pas m'oublier, hein. Tu me dois l'obéissance, tu me dois la soumission, tu me dois de me reconnaître tel que je suis. Et Jésus va dire, mais ce qui va certainement plonger encore la scène et la situation dans un plus grand mystère, forcément dans un plus grand mystère. Ne savez-vous pas ? Vous savez que l'incrédulité et le scepticisme, ou le non-savoir, enfin, l'ignorance des hommes, a toujours étonné Jésus. Ouais. Ça a toujours été un étonnement, on le verra plus tard, lorsqu'il exercera son ministère parmi les hommes, là partout où les gens, et pourtant des gens qui étaient avisés, des gens qui étaient informés, s'étonnent du miracle, s'étonnent des paroles, s'étonnent des faits que Jésus va produire, des actes d'amour qu'il manifestera. Ne savez-vous pas ? Ne savez-vous pas ? Dira-t-il. Et ça amènera peut-être Jésus beaucoup plus tard, certainement Jésus plus tard, lorsqu'il, à la croix, dans les dernières paroles de la croix, lorsqu'il priera son Père qui est dans le ciel, il dira devant cette ignorance, devant cette inconscience, devant cette insouciance des hommes, devant cette fausse croyance, il dira « Mes pères, pardonneurs, parce qu'ils ne savent pas !» Alors il ajoutera ce qu'ils font, mais ils ne savent pas. Et vous savez que la vraie connaissance, c'est au pied de Jésus que nous la trouvons. Marie avait tout à fait raison, mais Marie, l'autre Marie, vous savez tout à fait raison d'être au pied de Jésus pour écouter sa parole. Et je crois que le monde a besoin, il a un besoin urgent de lire la Bible, de lire l'Évangile, de se pénétrer de cette parole qui vient de ces paroles qui viennent du ciel, et de se mettre à l'écoute de Jésus. C'est comme cela que nous avons la connaissance, et une saine connaissance qui va chasser toutes les illusions de croire à n'importe quoi, n'importe qui, et faire n'importe quoi, naturellement. Et à ce moment, Jésus, probablement, c'est un trait de ce caractère que nous pouvons souligner, Jésus prend conscience que toute sa carrière terrestre sera dominée par un grand « il faut » que je m'occupe des affaires de mon père. Il faut. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine ? Et toute la vie de Jésus ensuite, parmi les hommes, dans ce témoignage divin qu'il nous apportera, ce témoignage de la bonne nouvelle de l'Évangile, dans l'obéissance à son Père, la soumission à son Père, très souvent nous voyons dans l'Évangile où il nous est dit « il fallait, il faut ». Jésus s'est donné cette obligation de faire ce qui était nécessaire de faire. « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Jésus se sent fils de Dieu. Ouais. Fils de Dieu, peut-être pour la première fois. Jésus a eu certainement cette conscience au fur et à mesure. Il n'a pas été dès la crèche, bien qu'il soit, mais il n'a pas été dans la plénitude de la connaissance. Il a fallu qu'il l'apprenne. Et quand on voit son cheminement en tant qu'enfant, l'enfance de Jésus a été une enfance comme certainement tous les petits garçons et toutes les petites filles de son temps. Il a appris à travailler de ses mains, il a appris la valeur du travail, il a appris la valeur de la vie, il a connu ce que pouvaient être finalement tous les drames et toutes les joies de l'existence. Et là, dans le temple, il prend certainement conscience d'une autre dimension qui va être couronnée au moment où il apparaîtra 18 ans plus tard, lorsqu'il recevra le baptême dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, et que là, le Saint-Esprit dira « Voici mon Fils, en qui, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et la parole de Dieu, et Dieu dira du haut du ciel, écoutez-le. » Jésus donc se sent investi, mais pour le moment, il demeure le fils des hommes, le fils de l'homme auquel il doit obéissance. Il va obéir à son père et à sa mère. mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux, obéissance, pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Je trouve qu'il y a vraiment la note de la perfection dans ce texte. Pour montrer que ça nous étonne, mais il y a vraiment quelque chose de formidable. La conclusion, je la donne à travers le verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus est un adolescent. Il a 12 ans à ce moment-là. Et il avance dans son développement physique et spirituel. On a lu stature, grâce, sagesse. On notera au passage, et je voudrais quand même vous le faire remarquer, que la sagesse est mentionnée avant la stature. Et ça, ce n'est pas pour rien. Il a grandi, il s'est fait un corps d'homme, il s'est développé comme tout à chacun. Il y avait quelque chose. Il nous est dit, il a commencé à grandir en sagesse. Mais cette sagesse, d'où venait-elle? On le devine naturellement. Pour marquer les progrès de son intimité avec son Père céleste, cette communion qu'il a avec le ciel. Alors il sera à la fois, l'agneau immolé de la Pâque. C'est ce qu'il nous est dit. Les parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Jésus est porteur de quelque chose dont nous avons parlé tout à l'heure, parce qu'il sera à la fois donc l'agneau immolé et la source de toute sagesse. Alors, Jésus, bientôt parfaitement humain et divin, sera le commencement. Je dirais même le recommencement d'un monde nouveau, d'une vie nouvelle. Un monde qui sera fait d'amour, qui sera fait de conciliation, qui sera fait de réconciliation, de pardon entre le ciel et la terre, entre la créature et son créateur. Et ça commence comme ça. Ça commence de cette manière. Alors, je finis par une interrogation ou une question. Assurons-nous que le Sauveur, assurons-nous que Jésus est bien à marcher avec nous sur le chemin de la vie? Parce que nous pouvons penser qu'il est avec nous, mais il ne l'est pas. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais peut-être que nous ne l'avons pas invité. Nous ne l'avons pas sollicité, nous ne lui avons pas donné la première place. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons de l'Évangile, c'est avant tout un message d'évangélisation. Pour nous interpeller les uns et les autres, puis tous ceux qui entendront ce message ultérieurement, mais de nous interroger, est-ce qu'il marche bien avec nous? Est-ce qu'il est auprès de nous, croyant qu'il était avec eux? Et quand nous savons qu'il est avec nous, eh bien ça dissipe toutes les illusions des fausses croyances, des croyances que nous nous sommes mis dans la tête. Et si je termine, puisque nous sommes dans la période, on a parlé de Pâques, mais nous sommes à Noël, et un regard de Noël, cette promesse que nous avons lue tout à l'heure, promesse de Dieu, la promesse du Dieu avec nous, il s'appelle Emmanuel. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ça nous ramène au récit que nous avons lu il y a un instant. Il croyait qu'il était avec, mais il ne l'était pas. Mais aujourd'hui, nous savons que par les textes de l'Ancien Testament, à la fois dans Ésaïe, chapitre 7, nous l'avons lu tout à l'heure, comme également le rappel de cette prophétie qui s'est accomplie et que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, où il nous est dit « Tu donneras à cet enfant le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous ». On n'a pas à croire s'il est ou pas, il est là. Il est avec nous dans la mesure où on le reçoit par la foi. Et de dire vraiment « Je sais qu'il est là, qu'il est avec moi, qu'il est en moi, qu'il est près de moi. J'ai l'assurance de sa présence et il porte » admirablement le beau nom d'Emmanuel. Tout simplement, Jésus avec nous. Jésus, pour finir, c'est l'impossible absence. On ne peut pas se passer de lui. On ne peut pas vivre sans lui. Il n'y aura pas de continuité à notre vie s'il n'y a pas Jésus. C'est l'impossible absence pour tous les hommes. Je crois que, à travers ce message, eh bien, c'est une réflexion qui nous indique une fois de plus que nous avons vraiment besoin de la présence, de la personne, de la parole, de l'amour, du pardon, de la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors il marche sur notre chemin. Et s'il ne marchait pas sur notre chemin, nous pouvons l'inviter à lui dire, eh bien Seigneur, tu viens, tu rentres dans ma vie, tu prends toute la place, parce que je ne peux pas vivre sans toi. Nous allons tout simplement maintenant nous courber et demander à Dieu qu'il nous bénisse à travers cette réflexion, qui doit faire son chemin dans notre cœur, qui doit nous amener bien plus près de lui, et lui plus près de nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Nous voulons tout simplement, Seigneur, eh bien, te demander que tu bénisses, Seigneur, ces quelques mots, ce message, savant, Seigneur, qu'il nous amène à véritablement réfléchir. Il y a, en effet, probablement des millions et des millions de gens qui pensent comme Joseph et Marie, eh bien, que Jésus est avec eux, mais il n'est pas là. Il n'est pas là parce que nous avons pensé telle ou telle chose qui ne sont pas la réalité, qui ne sont pas la vérité. Tout cela, eh bien, peut-être vient de tradition, d'habitudes, voire même des habitudes culturelles, religieuses. Mais Seigneur, nous voulons véritablement faire un demi-tour et retourner dans le temple. Retourner, Seigneur, au bon endroit. Et là, nous allons découvrir que le Sauveur, il n'est pas seulement à Jérusalem à s'instruire, à se préparer pour cette vocation d'exception, mais c'est aussi à Jérusalem que nous le rencontrons sur la croix, pour nous dire qu'il est mort pour nous, qu'il nous a donné sa vie, pour que lui soit avec nous et que nous, nous soyons avec eux, avec lui, que lui, eh bien, demeure, Père éternel, au fond de nos cœurs et de nos vies. Seigneur, il n'y a qu'une chose, Seigneur, qui est importante. Ce n'est pas de croire à ceci et cela, c'est d'avoir la foi dans ce que Dieu nous a donné. Et nous croyons que, en nous donnant, Seigneur, le Christ, en nous donnant Jésus, eh bien, Dieu nous a donné la vie. Et nous te bénissons parce que sans lui, nous ne pouvons pas faire le chemin. Sans lui, nous ne pouvons pas aller plus loin. Sans lui, Seigneur, il nous manquera toujours quelque chose. Sans lui, il y aura toujours une, Seigneur, une impossible absence. Alors, merci parce que tu veux nous débarrasser de toutes ces fausses croyances pour nous montrer encore une fois de plus. Et tu nous le rappelles, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors merci Seigneur, parce que tu marches sur le chemin dans notre vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.